bonsoir. Donc nous allons lire quelques textes de ce monsieur, Marshall McLuhan. C'est un livre qui s'appelle « Pour comprendre les médias » qui a été écrit en 1964. Et ce qui est frappant avec ce sociologue et philosophe d'origine canadienne, c'est à quel point il a été prophétique. Et c'est le premier, par exemple, qui a parlé du village global, qui a une intuition du net. Il parle plusieurs fois de filet, en anglais net. Et nous avons choisi un certain nombre de textes. Pas trop, parce que c'est toujours un peu long de lire par rapport à la lecture mentale. Mais c'est à l'avantage de donner quelques éléments de son style et de ses convictions. Alors on va commencer tout de suite par l'introduction. Que voici. Après 3000 ans d'une explosion produite par des technologies mécaniques et fragmentaires, le monde occidental implose. Pendant l'âge mécanique, nous avons prolongé nos corps dans l'espace. Aujourd'hui, après plus d'un siècle de technologie de l'électricité, c'était en 1964, c'est notre système nerveux central lui-même que nous avons jeté comme un filet sur l'ensemble du globe, abolissant ainsi l'espace et le temps, du moins en ce qui concerne la planète. Nous approchons rapidement de la phase finale des prolongements de l'homme, la simulation technologique de la conscience. Dans cette phase, le processus créateur de la connaissance s'étendra collectivement à l'ensemble de la société humaine, tout comme nous avons déjà, par le truchement de divers médias, prolongé nos sens et notre système nerveux. Que ce prolongement de la conscience, dont les publicitaires désirent depuis si longtemps disposer pour les produits en particulier, soit une bonne chose ou non, cela reste une question dont la réponse n'est pas simple. Il n'est guère possible de répondre à pareille question sur les prolongements de l'homme sans les considérer dans leur ensemble. Tout prolongement, que ce soit de la peau, de la main ou des pieds, influe sur l'ensemble du complexe psychique et social. Pendant l'âge machiniste, qui reflue désormais, on pouvait agir beaucoup sans trop se faire de soucis. La lenteur du mouvement retardait considérablement les réactions. Aujourd'hui, l'action et la réaction ont lieu presque en même temps. En fait, nous vivons mythiquement et intégralement, pourrait-on dire, alors que nous continuons à penser, d'après les modèles spatiaux et temporels fragmentaires et périmés, d'avant l'électricité. À l'âge de l'électricité, notre système nerveux central se prolonge technologiquement, au point de nous engager vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité, de nous l'associer. Nous participons nécessairement et en profondeur aux conséquences de chacune de nos actions. Il ne nous est plus possible d'adopter l'attitude flegmatique et détachée de l'occidental alphabétisé. Ce que le théâtre de l'absurde met en scène, c'est le dilemme nouveau de l'occidental, l'homme d'action qui semble être devenu indifférent à l'action. C'est de là que viennent les clowns de Samuel Beckett et c'est ce qui nous les rend si attachants. Après 3000 ans d'explosion spécialisée, de spécialisation et d'aliénation croissante due au prolongement technologique de notre corps, notre univers se comprime brutalement dans un renversement dramatique de la situation. Contracté par l'électricité, notre globe n'est plus qu'un village. Et en précipitant ensemble, en une implosion soudaine, toutes les fonctions sociales et politiques, la vitesse de l'électricité a intensifié à l'extrême le sens humain de la responsabilité. C'est à cause de cette implosion électrique qui impose la participation et l'engagement en dehors de quelque point de vue que ce soit, que notre époque est celle de l'angoisse.
Nous arrivons au chapitre « Le message, c'est le médium ». Le message, c'est le médium. Cela signifie, à l'âge électronique, qu'un milieu totalement nouveau a été créé. Le contenu de ce milieu nouveau, c'est l'ancien milieu machiniste de l'époque industrielle. Le nouveau milieu refaçonne l'ancien aussi radicalement que la télévision refaçonne le cinéma. Le contenu de la télévision, en effet, c'est le cinéma. La télévision nous pénètre de toutes parts et elle est imperceptible, comme tous les milieux. Nous ne prenons conscience que de leur contenu ou du milieu antérieur. Lors de son apparition, la production mécanique a créé petit à petit un milieu dont le contenu était le milieu antérieur de la vie, des arts et des métiers agricoles. Et le nouveau milieu machiniste a fait de l'ancien milieu une forme d'art. La machine a transformé la nature en forme d'art. Pour la première fois, à ce moment, les hommes ont commencé à regarder la nature comme une source de valeur esthétique et spirituelle. Ils ont commencé à s'étonner que les époques précédentes n'aient pas perçu l'univers naturel comme art. Chaque nouvelle technologie crée un milieu, vu en soi comme corrompu et dégradant, mais qui transforme cependant son prédécesseur en forme d'art. À mesure que la prolifération de nos technologies crée une série de nouveaux milieux, les hommes se sont rendus compte que les arts sont des contre-milieux ou des antidotes qui nous donnent les moyens de percevoir le milieu lui-même. L'art, vu comme contre-milieu ou antidote au milieu, devient plus que jamais un moyen de former la perception et le jugement. L'art, vu comme article de consommation courante plutôt que comme moyen de former la perception, reste aussi snob et aussi ridicule qu'il l'a toujours été. L'étude des médias ouvre immédiatement les portes de la perception.
La technologie d'électricité est dans nos murs. Et nous sommes sourds, muets, aveugles et inconscients devant sa collision avec la technologie gutenbergienne. Gutenberg, l'imprimerie. Par et sur laquelle s'est constitué le way of life américain. Il ne sert cependant à rien de proposer une stratégie défensive quand on n'a pas reconnu l'existence d'un danger. Je me trouve dans la situation de Pasteur, le scientifique, qui expliquait aux médecins que leur principal ennemi était à peu près invisible et qu'ils ignoraient son existence. Notre attitude traditionnelle devant les médias, et qui consiste à dire qu'ils valent ce que nous les faisons, est l'attitude typique de torpeur du retardé technologique que nous sommes. Le contenu d'un médium, en effet, peut être comparé au savoureux morceau de beefsteak que le cambrioleur offre au chien de garde de l'esprit pour endormir son attention.
L'énergie hybride. L'éclairage électrique a liquidé le régime du jour et de la nuit, de l'intérieur et du dehors. Mais c'est quand il heurte les modèles d'organisation humaine existants qu'il libère l'énergie hybride. Les autos peuvent rouler toute la nuit, les athlètes jouer à la balle le soir comme le jour, les édifices se passer de fenêtres. En un mot, le message de la lumière électrique, c'est le changement total. Elle est information pure, sans contenu qui puisse diminuer sa force de transmission et d'information. Ceux qui s'interrogent sur les médias tiendraient la clé de la forme de ce pouvoir qu'ont tous les médias de refaçonner les vies qu'ils touchent, s'ils voulaient seulement méditer, celui qu'a la lumière électrique de transformer la moindre des structures de l'espace et du temps, du travail et de la société. Ceux qui gèrent les médias pour leurs possesseurs ont cette singulière tendance de se préoccuper du programme ou du contenu, de la radio, de la presse ou du cinéma. Les propriétaires, eux, s'intéressent davantage aux médias comme tels. Ils se soucient surtout des « désirs du public », formule fort vague. Les propriétaires des médias sont conscients des médias en tant que force, et ils savent que ces forces ne dépendent pas du contenu ou de médium dans le médium.
Ce que je dis, c'est que les médias, en tant que prolongement de nos sens, établissent de nouveaux rapports, non seulement entre nos sens à nous, mais aussi entre eux-mêmes, quand ils influent les uns sur les autres. Ce sont les poètes et les peintres qui réagissent sur le champ à un nouveau médium comme la radio ou comme la télévision. La radio, le phonographe, le magnétophone ont fait de nouveau de la voix du poète une dimension importante de l'expérience poétique. Les mots sont redevenus une sorte de pinceau de lumière.
Le défi et la chute. Aucune société n'a jamais suffisamment compris ses actions pour s'immuniser contre ces nouveaux prolongements ou ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous commençons à sentir que l'art pourrait peut-être nous conférer cette immunité. L'histoire de la culture humaine ne connaît pas d'exemple d'une adaptation consciente des divers éléments de la vie privée et sociale à de nouveaux prolongements. Sinon, les tentatives limitée et tangentielle des artistes. L'artiste capte le message du défi culturel et technologique plusieurs décennies avant que son choc transformateur ne se fasse sentir. Il construit alors des maquettes ou des sortes d'arches de Noé pour affronter le changement qui s'annonce. À l'âge de l'électricité, en effet, c'est ne rien dire que de parler des artistes comme d'individus qui devancent leur époque. Notre technologie devance elle aussi son temps, si nous nous donnons la peine de la reconnaître pour ce qu'elle est. L'artiste est maintenant porté, pour réduire les risques de naufrage social, à quitter sa tour d'ivoire pour la tour de contrôle de la société. Tout comme l'enseignement supérieur n'est plus un luxe ou un caprice à l'âge de l'électricité, mais une condition absolue de la production et de l'organisation scientifique, de même, l'artiste est indispensable à l'orientation, à l'analyse et à la compréhension de la vie des formes et des structures créées par la technologie électrique. La survivance de l'humanité dépend désormais de la connaissance de cette vérité toute simple. L'habileté de l'artiste à esquiver le choc brutal des technologies nouvelles et à en parer les coups en toute lucidité est vieille comme le monde. Et l'impuissance des victimes, qui n'ont pu éviter le heurt de la nouveauté à reconnaître qu'elles ont besoin de l'artiste, a le même âge. Récompenser les artistes et assurer leur célébrité. Cela peut être aussi une façon de nier leur travail de prophète et d'empêcher qu'on ne l'utilise à temps pour survivre. Dans tous les domaines, celui de la science comme celui des humanités, l'artiste est un homme qui saisit la signification de son action et des connaissances nouvelles de son temps. Il est l'homme de la lucidité globale. L'artiste peut compenser les rapports des sens avant que le choc d'une technologie nouvelle n'anesthésie les modes d'action conscients. Il peut les compenser avant le début de la torpeur. des tâtonnements inconscients et de la réaction. Si cela est vrai, comment exposer le problème à ceux qui pourraient y faire quelque chose? Si cette analyse est le moindrement juste, elle justifierait un armistice global et une période de bilan. Et s'il est vrai que l'artiste est capable de prévoir et d'éviter les conséquences d'un traumatisme technologique, que faut-il penser du monde et de la bureaucratie des connaisseurs d'art? Ne nous apparaissent-ils point comme une conspiration pour faire de l'artiste un marchand de bagatelles, de frivolités et d'amusettes? Si les hommes parvenaient à se convaincre que l'art est un moyen de connaître avec précision et à l'avance les effets sociaux et psychologiques de la prochaine technologie, ne se feraient-ils pas tous artistes? Ou s'appliqueraient-ils à traduire les nouvelles formes d'art en cartes de navigation sociale? J'aimerais savoir ce qui se produirait si l'on se mettait tout à coup à tenir l'art pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire une indication précise sur la façon dont il faut remanier ses facultés pour se préparer au prochain coup de leur prolongement. Cesserions-nous alors de considérer les œuvres d'art comme l'explorateur, l'or et les pierres précieuses dont se parent de simples primitifs?
Un petit intermède sur la parole par rapport à l'écriture. Il est utile, pour mieux comprendre la nature de la parole, d'en comparer la forme avec celle de l'écriture. L'écriture phonétique isole et amplifie la valeur visuelle des mots, mais elle n'en est pas moins imparfaite et lente. Le nombre de façons d'écrire « ce soir » est plutôt limité. Stanislavski demandait à ses élèves de prononcer ces mots et de les accentuer de 50 façons différentes. Devant un public qui devait transposer par écrit les différentes nuances de signification et de sentiment qu'il percevait. On a consacré moult récits et bien de pages de prose à rendre ce qui était en réalité sanglots, gémissements, rires ou cris perçants. L'écriture décrit en succession tout ce que la parole contient d'implicite et d'immédiat. Quand nous parlons, nous avons tendance à réagir à chaque situation qui se présente, à réagir même par nos gestes, notre intonation, à notre propre parole. L'écriture, elle, est plutôt une sorte d'action isolée ou spécialisée qui ne se prête guère à la réaction, ni ne la nécessite. L'homme, où la société alphabétisée acquiert une formidable capacité d'agir, en tout, avec beaucoup de détachement, sans éprouver les sentiments ou la participation émotive qu'éprouverait un homme ou une société analphabète.
La demande d'une technologie nouvelle est peut-être la plus évidente des structurations ou des effets psychiques qu'elle produit. Personne ne réclame d'automobile tant qu'il n'en existe pas. Personne ne s'intéresse à la télévision tant qu'il n'y a pas d'émission. Ce pouvoir qu'a la technologie de créer sa propre demande n'est pas étranger au fait qu'elle est avant tout un prolongement de notre corps et de nos sens. Quand nous sommes privés du sens de la vue, les autres sens le remplacent jusqu'à un certain point. Et ce besoin d'utiliser les sens disponibles est aussi impérieux que celui de respirer. Fait qui donne un sens à notre habitude de laisser ouverts plus ou moins continuellement nos appareils de radio et de télévision. Cette tendance est indépendante du contenu des émissions publiques ou de la vie sensorielle privée et montre que la technologie est une partie de notre corps. La technologie électrique est directement reliée à notre système nerveux central. C'est pourquoi il est ridicule de parler de ce que le public désire se faire jouer sur ses propres nerfs. Une fois que nous avons cédé nos sens et nos systèmes nerveux aux manipulateurs privés, prêts à profiter du bail qu'ils ont sur nos yeux, nos oreilles et nos nerfs, il ne nous reste vraiment aucun droit. Louer nos yeux, nos oreilles et nos nerfs à une société commerciale, c'est céder le langage ou donner l'atmosphère terrestre à un monopole privé. C'est ce qui est déjà arrivé avec l'espace, pour la même raison qui nous a déjà fait céder notre système nerveux central à diverses sociétés commerciales. Aussi longtemps que nous adopterons l'attitude de Narcisse, attitude qui consiste à considérer les prolongements de notre corps comme extérieurs à nous-mêmes et indépendants de nous, nous glisserons sur toutes les pelures de bananes de la technologie et nous nous étalerons.
La technologie électrique nouvelle, qui étend sur toute la surface du globe un filet de prolongement de nos sens, le filet en anglais, le net, de nos sens et de nos nerfs, aura une portée immense sur l'avenir du langage. La technologie électrique n'a pas besoin de mots, pas plus que l'ordinateur numérique n'a besoin de nombres. L'électricité ouvre la voie à une extension du processus même de la conscience, à une échelle mondiale et sans verbalisation aucune. Il n'est pas impossible que cet état de conscience collective ait été celui où se trouvaient les hommes avant l'apparition de la parole. Il se peut que le langage, cette technologie de prolongement humain dont nous connaissons si bien la capacité de diviser et de séparer, ait été la tour de Babel par laquelle les hommes ont cherché à escalader les cieux. Aujourd'hui, l'ordinateur s'annonce comme un outil de traduction instantanée dans tous les sens, de tous les codes et de toutes les langues. L'ordinateur, en somme, nous promet une pentecôte technologique, un état de compréhension et d'unité universelle. Logiquement, l'étape suivante consisterait, semble-t-il, à préférer aux langues, au lieu de les traduire, une sorte de conscience cosmique universelle, assez semblable à l'inconscient collectif dont rêvait Bergson. L'état d'apesanteur où les biologistes discernent la promesse de l'immortalité physique aura peut-être son parallèle dans un mutisme qui assurerait une paix et une harmonie collective perpétuelle.
Chapitre sur l'argent. La malédiction de Midas, son pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touchait, constitue jusqu'à un certain point l'essence même de tous les médias, y compris le langage. Ce mythe attire l'attention sur le côté magique de tous les prolongements des sens et du corps, c'est-à-dire de toutes les technologies. Toutes les technologies produisent l'effet Midas. Une société qui met au point un prolongement d'elle-même a tendance à laisser toutes les autres fonctions s'adapter à cette forme. Le langage, comme le numéraire, sert d'entrepôt de la perception et comme transmetteur des perceptions et de l'expérience d'un individu à un autre ou d'une génération à une autre. Tant comme entrepôt que comme traducteur de l'expérience, le langage, de plus, la réduit et la déforme.
Et maintenant, un dernier chapitre sur l'automation. L'automation.
Avec comme sous-titre l'école permanente.
La petite école de briques rouges est victime de la route, écrivait récemment un journal. L'école à classe unique, où le même instituteur doit enseigner toutes les matières aux élèves de toutes les divisions, disparaît tout simplement quand l'amélioration des moyens de transport permet de spécialiser l'espace et l'enseignement. En des conditions d'accélération extrême du mouvement toutefois, comme aujourd'hui, c'est la spécialisation de l'espace et des matières qui redisparaît. Avec l'automation, on n'assiste pas qu'à la disparition des emplois et à la réapparition de rôles complexes. En rendant l'information instantanément disponible, l'électricité met un terme à la spécialisation séculaire de la pédagogie et à la division de la connaissance selon les spécialités. L'automation est information. Non seulement elle abolit les emplois dans le monde du travail, mais elle abolit les disciplines dans celui de l'éducation. Mais elle n'abolit pas le monde de l'éducation. Le travail de l'avenir, à l'âge de l'automation, consistera à apprendre sa vie plutôt qu'à la gagner. C'est là une constante désormais familière de la technologie électrique en général, qui abolit les anciennes divisions entre la culture et la technique. L'art et le commerce, le travail et le loisir. Alors qu'à l'âge de la fragmentation mécanique, le loisir était l'absence de travail ou la simple oisiveté. Le contraire est vrai à l'âge de l'électricité. L'âge de l'information nous impose de nous servir simultanément de toutes nos facultés et nous découvrons que nous sommes d'autant plus en loisir que nous sommes plus intensément engagés, comme ce fut le cas des artistes de tous les temps. La plupart des scientifiques sont très conscients qu'il n'est plus possible, depuis que nous avons acquis une certaine connaissance de l'électricité, de décrire les atomes comme des grains de matière. De même, à mesure qu'augmente notre connaissance des décharges électriques et de l'énergie, nous avons de moins en moins tendance à parler de l'électricité comme une chose qui passe dans un fil, telle de l'eau dans un tuyau ou qui est contenue dans une pile. Nous parlons plutôt de l'électricité comme les peintres parlent de l'espace, c'est-à-dire comme d'un état variable qui implique des positions déterminées de deux ou plusieurs corps. On ne dit plus guère que l'électricité est contenue dans quelque chose. Les peintres savent depuis longtemps que les objets ne sont pas contenus dans l'espace, mais que chacun engendre son propre espace. C'est l'émergence de cette notion dans les mathématiques, il y a 100 ans, en 64, qui a permis à Lewis Carroll, mathématicien à Oxford, de créer Alice au pays des merveilles, où le temps et l'espace ne sont ni uniques, ni uniformes, ni continus, comme ils avaient semblé l'être depuis la découverte de la perspective à la Renaissance. Quant à la vitesse de la lumière, elle est simplement la vitesse de la causalité globale. Un des aspects fondamentaux de l'âge de l'électricité, c'est qu'il instaure un réseau global qui possède plusieurs des caractéristiques de notre système nerveux central.
En règle générale, l'accélération électrique exige une connaissance complète des effets ultimes. Les accélérations mécaniques antérieures, si radicalement qu'elles aient modifié la vie privée et sociale, n'en fonctionnaient pas moins de façon séquentielle. La plupart des hommes pouvaient se tirer d'affaire, du début à la fin d'une vie de durée normale, avec un seul et même bagage de connaissances. Ce n'est plus le cas avec l'accélération électrique. La nécessité pour des administrateurs d'âge mûr d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques est une des conséquences les plus harassantes et les plus courantes de la technologie électrique. Les grands administrateurs, les huiles de l'engrenage administratif, comme on les appelle ironiquement et archaïquement, constituent un des gros groupes d'hommes les plus harassés et les plus constamment harcelés de l'histoire de l'humanité. Non seulement l'électricité exige sans cesse des connaissances plus approfondies et une interaction plus rapide, mais elle a rendu la coordination des opérations de production aussi rigoureuse que celle qu'on exige des membres d'un grand orchestre symphonique. Et les satisfactions sont aussi rares pour les administrateurs que pour les musiciens. Dans un grand orchestre, en effet, l'instrumentiste n'entend rien de la musique qu'entend le public. Il ne perçoit que du bruit.
L'automation libère l'homme. Tout comme la machine et l'automobile ont libéré le cheval et l'ont projeté au plan du divertissement. Nous sommes soudain menacés d'une liberté qui met à rude épreuve nos ressources intérieures, notre capacité de travailler seul et nos possibilités de participation créatrice à la société. Il semble que leur destin appelle les hommes à jouer un rôle d'artiste dans la société, ce qui les amène pour la plupart à se rendre compte à quel point ils étaient devenus dépendants de la routine spécialisée de l'âge mécanique. Il y a des milliers d'années, les nomades ont abandonné la cueillette pour se mettre à des tâches positionnelles relativement sédentaires. L'homme a commencé à se spécialiser. L'invention de l'écriture et celle de l'imprimerie ont été les étapes principales de cette évolution. L'homme spécialisé a séparé au suprême degré le savoir et l'action, même s'il apparaissait à certains moments que la plume était plus puissante que l'épée. Mais avec l'électricité et l'automation, la technologie de la fragmentation des processus s'est soudainement fondue avec le dialogue humain et le besoin de chercher avant tout l'unité humaine. Les hommes vivent tout à coup de cueillette de la connaissance, plus nomades que jamais, mieux informés que jamais, libérés plus que jamais de la spécialisation fragmentaire, mais également impliqués comme ils ne l'ont jamais été dans la totalité du processus social, puisque l'électricité étant leur système nerveux central, à tout le globe, provoquant l'interrelation instantanée de toutes les perceptions humaines.